Alors, il y a 15 jours, j'avais commencé à vous faire part de ma méditation personnelle au sujet de la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples, que l'on connaît sous le nom du Notre Père. Et nous n'avons pas été bien loin, n'est-ce pas? Nous nous sommes arrêtés à Notre Père qui est aux cieux. Et puis, je vous avais exhorté à prendre sur vous et prendre votre part sur cette méditation du Notre Père. Encore là, le prédicateur n'est pas là pour vous mâcher les choses. Il est simplement là pour vous débroussailler un petit peu le chemin que vous êtes appelé à suivre de manière personnelle. Et j'espère que vous avez pris du temps à relire, à méditer, à ruminer, bien que j'aime pas ce nom-là, ce mot-là, parce que ça fait penser à des vaches, et nous ne sommes pas des vaches, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des bœufs. Mais à faire sien cette prière que Jésus a enseignée, qui n'est pas simplement quelque chose que l'on doit répéter ou dire sans cesse, mais que l'on doit faire sien. Hein, c'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, c'est la prière personnelle que Jésus fait, qu'il enseigne à ses disciples. Alors, ce matin, je vous propose simplement d'aller un tout petit peu plus loin, et puis eh bien de réfléchir, de méditer ensemble, que ton nom soit sanctifié. Voilà, que ton nom soit sanctifié. Alors, le livre des Actes nous raconte l'épisode de la rencontre d'un évangéliste qui s'appelle Philippe avec un eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était en train de lire un texte de Ésaïe, Ésaïe 53, et Philippe lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il y a deux instants, je pense, où l'on doit se poser cette question, comprends-tu ce que tu lis? C'est lorsqu'on, bien sûr, on rencontre pour la première fois le texte biblique, est-ce que je comprends ce que je suis en train de lire? Mais c'est aussi lorsque on est tellement habitué à un texte, les mots sont tellement familiers, que nous devons encore nous poser cette question-là. Est-ce que je comprends encore ce que je suis en train de lire? Est-ce que je comprends maintenant ce que je suis en train de faire lorsque je dis ou lorsque je prie que ton nom soit sanctifié? Je suis sûr que vous avez dit ces mots, prié ces mots, lu ces mots des centaines de fois, voire peut-être des milliers de fois. Mais est-ce que ces mots-là, est-ce qu'on en a pris bien le sens? Est-ce qu'on en a approfondi bien le sens? Alors, pour ma part, je me suis arrêté cette semaine encore sur ces mots. Et c'est tellement merveilleux, tellement merveilleux, tellement fort que ton nom soit sanctifié. Alors, j'ai voulu encore les savourer, comme j'avais fait avec notre Père qui est aux cieux. C'était tellement bon. Je les ai questionnés. Et comme d'habitude, la parole de Dieu a été comme une nourriture pour mon cœur et pour mon âme. Alors, ce que je vais vous dire ce matin sur que ton nom soit sanctifié, c'est encore un débroussaillage. Et je vous exhorte à aller voir pour vous et à vraiment méditer, prendre du temps à méditer pour votre propre compte. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire pour ma vie? Qu'est-ce que cela veut dire que ton nom soit sanctifié? Alors, dans ce verset, que ton nom soit sanctifié, dans cette demande, il est parlé du nom. Alors pourquoi est-ce qu'il est parlé du nom, que ton nom soit sanctifié? Parce que la Bible ne parle pas de Dieu comme d'un concept, comme d'une idée. Le Dieu de la Bible n'est pas un nom commun, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, c'est une personne qui se révèle, qui se dévoile, qui parle et qui agit, qui manifeste sa volonté, qui manifeste ses sentiments. Oui, effectivement, Dieu n'est pas un nom commun. Je peux vraiment le définir comme une personne. Une personne avec qui je peux rentrer en relation et que l'on peut connaître. C'est ce que nous avons fait ce matin, hein, n'est-ce pas, dans notre louange. Nous n'avons pas dit notre louange à un concept, à une grande idée. Nous avons parlé à une personne. Connaître Dieu est bien préférable dans la Bible même qu'avoir des richesses ou beaucoup de science. C'est Jérémie qui dit, enfin, qui parle de la parole du Seigneur, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. » C'est ça la vraie vie. C'est vrai, c'est ça le vrai sens de la vie. Ce n'est pas de faire fortune. Ce n'est pas d'acquérir de la science. Ce n'est pas acquérir de la renommée. Si c'est ça le but de votre vie, vous passez à côté de la vie et du but de la vie. Que celui qui veut se glorifie de me connaître. De me connaître. Alors quelqu'un dit, je connais Dieu. Je connais Dieu. Norbert peut dire, je connais Dieu. Mais est-ce que je connais tout de Dieu? Bien sûr que non. Est-ce que je connais tout de Chantal? Ça fait 41 ans que nous sommes mariés. J'en connais un bon bout de Chantal. Je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle n'aime pas. Je connais par avance ses réactions. Je peux même deviner, devant telle circonstance, quelles sont ses pensées. Ma connaissance a grandi depuis le temps que je la connaissais lorsque j'étais fiancé. Mais dire que je connais tout de Chantal, c'est présomptueux, car encore elle va m'étonner. Encore elle va me faire découvrir des facettes que je n'ai pas explorées. Il y a des choses qu'elle ne me dit pas. Elle a son petit jardin secret. Elle a son petit journal où chaque matin, elle marque les pensées que le Seigneur lui donne. Je n'ai pas le droit d'y regarder. Quand j'arrive dans le bureau, elle ferme. Elle me dit, je te dirai plus tard. Je ne connais pas tout de Chantal. Je ne sais même pas encore si c'est le 26 ou le 28 septembre, son anniversaire. Si, c'est le 28. Elle vient de me le dire. Je ne pourrai jamais lui acheter des vêtements. Elle achète des vêtements pour moi. Mais moi, je ne pourrai jamais lui acheter des vêtements. Je ne connais pas sa pointure. Je ne connais même pas... Voilà, c'est comme ça. Je ne connais pas tout de Chantal. Mais ma connaissance de Chantal augmente en proportion de ma relation avec elle. Ma connaissance de Chantal augmente à mesure que j'entretiens une relation avec elle. Il en est de la même façon pour Dieu. Notre connaissance de Dieu sera limitée, car Dieu, par définition, il est incompréhensible. Il habite une lumière inaccessible. Dieu, par définition, me dépasse, et heureusement. Si je savais tout de Dieu, si je connaissais tout de Dieu, alors je serais pratiquement comme Dieu vis-à-vis de lui, comme un Dieu. Quelqu'un l'a dit ce matin, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Notre connaissance est limitée, mais c'est une connaissance qui est suffisante pour nous, pour notre salut. Ce que je connais de Dieu, c'est suffisant pour m'amener à une relation qui est vraie et réelle. Dieu, lorsqu'il se révèle à moi, il va utiliser les mots qu'il sait qui me parlent. C'est français, ça? Oui. Lorsque je lis dans la Bible, par exemple, que son bras n'est pas trop court pour secourir. Alors d'abord, est-ce que Dieu, il n'a qu'un seul bras? C'est une manière de me dire sa proximité, sa force, sa puissance de salut pour moi. Son bras n'est pas trop court. Lorsqu'il est marqué, je t'ai gravé sur mes mains. Alors effectivement, Jésus, nos noms sont gravés sur la paume de ses mains. C'est encore une manière pour me faire comprendre que rien, que mon nom est indélébile dans le cœur de Dieu. Dieu me connaît parfaitement, même si moi j'ai une connaissance limitée de Dieu. Les mots qu'il emploie vis-à-vis de moi, ce sont des mots qui décrivent non pas la réalité ultime de Dieu, mais des mots qui expriment quelque chose sur Dieu que nous pouvons comprendre. Dieu s'abaisse à nous parler de la même manière que nous parlons. Alors, il est une personne et il a un nom. Et le fait de donner son nom, c'est une manière pour lui de nous révéler qui il est. Il y a d'abord un nom générique, un nom général. Vous le connaissez, si vous lisez un petit peu, par exemple dans Chouraki ou dans des traductions, c'est le mot Elohim, le mot El, qui a donné encore El Shaddai, El Elyon. On pourrait traduire par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu. Il y a aussi des noms qui portent le nom de ce Dieu générique, Michaël, qui est comme Dieu, Gabriel, Emmanuel, Jézabel. Je ne vous conseille pas d'appeler vos enfants Jézabel, c'est pas une très bonne reine. Mais Dieu a aussi comme une sorte de nom propre. Ce nom, il l'a révélé à Moïse sur le mont Sinaï, lorsque Dieu lui a donné la Torah et les 10 commandements. Et là, c'est un nom différent parce que c'est un nom d'alliance. C'est plus un nom générique, c'est pratiquement le nom propre, comme le nom propre de Dieu. C'est un nom qui suppose une relation. C'est un nom que l'on ne prononce pas parce que sa vocalisation s'est perdue. Hein. Essayez de prononcer H-Y-H-W-H. On a mis certaines voyelles. Dans certaines Bibles, il y a le mot Yahvé. Dans d'autres Bibles, puisque ce mot signifie « je suis celui qui suis » ou « je suis qui je serai », ça nous parle d'éternité. Alors donc, certaines traductions dans la Bible traduisent par « l'éternel ». L'éternel. Les Israélites l'appellent Hachem, parce qu'ils ne veulent pas prononcer le nom. Hachem, ça veut dire le nom. Ils l'appellent simplement le nom. Hachem, le nom. Et en Israël, vous demandez comment ça va, même si quelqu'un n'est pas religieux, va dire « Baruch Hashem », ça veut dire « ça va bien, Baruch Hashem », c'est-à-dire « béni soit Dieu ». Alors, pourquoi ?« Baruch Hashem, kitov », parce qu'il est bon. « Baruch Hashem », voilà. Donc c'est une sorte de respect, même si on n'est pas religieux, on ne veut pas prononcer ce nom. Le nom de Yahvé, parce que moi je vais l'appeler Yahvé, on le chante. Yahvé a plusieurs déclinaisons. Il est l'Éternel qui pourvoit. Yahvé, Jiré. Hein? L'Éternel qui guérit. Yahvé, Raphé. Il est l'Éternel qui procure la paix. Yahvé, Shalom. Il est l'Éternel qui est ici. Yahvé, Shama. Tous ces noms de Dieu dévoile une action ou une relation privilégiée, relationnelle, avec son peuple ou des individus. Mais il y a un nom qui surpasse tous les autres noms. Je l'ai marqué en bas. Yehoshua, c'est le nom de Josué. Yehoshua, et qui veut dire « l'Éternel sauve ». Et c'est le nom de Jésus. Yehoshua. Alors avec le temps, il y a... Bon, je ne vais pas faire un cours de grammaire hébraïque. Il y a quelques petites syllabes qui sont sorties. Mais francisé, Yehoshua, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est un nom qui surpasse tous les autres noms, il nous est dit dans le Nouveau Testament. C'est l'Éternel qui sauve. En Jésus... Par Jésus, Dieu se fait connaître dans sa volonté de salut, dans sa volonté d'amour, dans sa volonté de relation, dans sa volonté de pardon et de grâce. En Jésus, Dieu se révèle. En Jésus. C'est par le nom de Jésus que nous pouvons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom, il nous est dit dans le Nouveau Testament, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est en son nom que nous prions. C'est en son nom que les malades sont guéris, dans les actes des apôtres et encore aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que tout genou fléchit, que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Alors, que demande-t-on lorsqu'on dit que ton nom soit sanctifié ? Alors, question, ça m'a posé question, hein, parce que le nom de Dieu n'est-il pas déjà saint par nature ? Peut-il être un peu plus sanctifié ? Et d'abord, qui sanctifie le nom de Dieu ? Est-ce que moi, pécheur, je peux sanctifier le nom de Dieu ? Il y a trois aspects à cette demande. Mais peut-être d'abord quelques mots sur la sainteté de Dieu, parce que on touche la sainteté de Dieu, on est émerveillé par la sainteté de Dieu. Et je pense que c'est une grande vérité qui nous est révélée que Dieu est un Dieu saint. Prenez une concordance. Vous savez, une concordance, c'est un livre qu'on a en bibliothèque maintenant. Avec les ordinateurs, c'est plus facile. Vous tapez le mot saint, vous tapez le mot sainteté, et vous voyez tous les versets qui nous parlent de la sainteté de Dieu. Et il y en a à foison, à foison, à foison. Hein. La sainteté, les théologiens disent, la sainteté fait partie des attributs de Dieu. C'est-à-dire que c'est son essence, pas son gasoil, hein, son essence, sa nature. Sa nature. On ne peut pas séparer la personne de Dieu et de sa sainteté, c'est ça que ça veut dire. Comme moi, Norbert, je suis un homme, mon humanité ne peut pas être séparée de ma personnalité. Voilà, la sainteté de Dieu fait partie de ce qu'il est. Il y a deux aspects à cette sainteté. L'aspect moral, c'est-à-dire être saint, qui veut dire être séparé du péché et du mal. Lorsqu'on pense à Dieu et de la sainteté, on a l'impression d'avoir affaire à une sainte nitouche. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas Dieu qui dit « Oh, je ne peux pas voir. Hein? Cachez-moi ce que je ne saurais voir. Hein? » Ce n'est pas ça. C'est comme si... C'est l'aspect moral de Dieu, c'est comme si vous essayiez de mélanger ténèbres et lumière. Ça ne se mélange pas. La lumière chasse l'obscurité, point à la ligne. Ou alors en cuisine, si vous essayez de mélanger de l'huile et de l'eau, vous allez bien sûr secouer, vous allez avoir non pas un mélange, mais une émulsion. Ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. Impossible de mélanger la sainteté de Dieu et le mal. Il ne peut pas avoir de mal en Dieu. Ce n'est pas lui qui vous tente, nous dit l'épître de Jacques. Et il y a aussi un autre aspect de la sainteté de Dieu, c'est celui de la séparation, c'est-à-dire ce qui le distingue de toutes les autres choses qui existent. On appelle cela aussi la transcendance de Dieu. Il est distinct de sa création. Et alors, c'est extraordinaire quand je m'approche de lui. Seigneur, moi je suis moi, mais toi tu es extraordinaire. Tu es plus grand que ce que je peux penser. Voilà, on est émerveillé en sa présence. Il y a un verset, Exode 15, verset 11, qui dit ceci, c'est au moment où le peuple d'Israël est délivré de la main de l'Égypte, a traversé la mer Rouge, la mer s'est séparée, les Égyptiens se sont noyés, et le peuple d'Israël, mené par Myriam avec son tambourin, va dire, « Mais qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté ?» Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Hein ? Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui nous repousse que Dieu soit différent. C'est quelque chose qui nous attire. Quelque chose qui nous émerveille. Magnifique en sainteté. C'est rare, hein ? Magnifique est son amour, magnifique est sa beauté, magnifique est sa sainteté. Lorsque Jean est amené par l'Esprit dans une vision céleste, il est marqué qu'il voit un trône, et alors il ne peut pas le décrire tellement c'est différent. Il dit, il y a comme quelqu'un sur le trône, comme quelqu'un. Alors, waouh, Dieu est vraiment différent de nous. Mais en même temps, ça n'empêche pas que Jean, il est admiratif de ce qu'il voit, émerveillé de ce qu'il voit, digne de louange par ce qu'il voit. La sainteté est un attribut de Dieu, ça fait partie de qui il est. Ce n'est donc pas un habit qu'il met ou qu'il enlève au gré de ses humeurs. Okay ? C'est-à-dire que souvent, on veut comparer les testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. On dit, wow, la sainteté se dévoile complètement dans le Premier Testament. Dans le Second, c'est l'amour qui est dévoilé. Voilà. Mais c'est faux, extrêmement faux. Si vous dites ça, vous hérétique. Hérétique. Marcion a voulu faire ça. Un prêtre avant le Moyen-Âge. La sainteté de Dieu est dévoilée dans l'Ancien comme dans le Nouveau. L'amour de Dieu est dévoilé autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus s'adresse à son Père, dans Jean 17, il dit « Père Saint, Père Saint, je te prie pour ce que tu m'as donné, Père Saint. » Alors, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire la sainteté, moi, je vous conseille vraiment de relire les passages qui sont forts, que vous connaissez tous, Ésaïe 6. Ésaïe se trouve devant la grandeur de Dieu, devant la magnificence de Dieu. Il entend les anges, les archanges qui disent « Saint, Saint, Saint et l'Éternel ». Pourquoi trois fois saint ? Pourquoi ? Parce que saint, ça ne suffit pas une fois. Saint, ça ne suffit pas deux fois. Trois fois, c'est la plénitude de la sainteté. Et vous savez, c'est un texte que l'on retrouve aussi dans l'Apocalypse. Hein. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. On le retrouve. Donc le premier aspect à la demande que ton nom soit sanctifié, on ne demande pas simplement que la sainteté de son nom soit augmentée, mais plutôt qu'elle soit manifestée davantage et pleinement à nos yeux. Que ton nom soit sanctifié, ça ne veut pas dire « Seigneur, augmente en toi la sainteté », mais ouvre mes yeux pour que je puisse contempler pleinement et totalement ta sainteté. Voyez la différence ? Que ton nom soit sanctifié, c'est une autre manière de demander au Seigneur, notre Seigneur, de se révéler tel qu'il est, vraiment. Qu'il agisse en conformité de qui il est. Alors souvent, dans les prières qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, c'est « Seigneur, pour l'honneur de ton nom, agis pour l'honneur de ton nom. » Voilà, c'est « Agis en conformité de ce que tu es. » Alors nous, on est minables, mais toi, Seigneur, tu ne t'arrêtes pas à notre misère, à notre minabilité. Agis pour l'honneur de ton nom, révèle-toi pour l'honneur de ton nom, montre qui tu es. Sanctifie ton nom. Et en se manifestant pleinement dans sa sainteté, le Seigneur détruit toutes les idoles à qui j'ai pu donner le nom de Dieu, mais qui ne sont pas lui. Et Dieu sait qu'il y en a, les idoles que l'on crée qui portent son nom. Ça sera un autre message. Pour faire court, une idole, c'est quelque chose qui a sa mauvaise place, une valeur que l'on a mise sur le trône de nos vies. En attendant de cette valeur, ce que l'on attendrait de Dieu, elle prend la place de Dieu. Et parfois, on se donne à elle, même on sacrifie à son autel et même parfois à sa propre vie. Il y a un homme qui s'est suicidé, milliardaire, qui a été accusé de, de pédophilie. À qui il a voué sa vie? À quelle idole? Ces idoles peuvent prendre le nom de richesse, de notoriété, de renommée, de science, de pouvoir, d'autorité, de sexualité, etc. Hein? Parfois même, une idole peut être un attribut de Dieu détaché des autres attributs divins. Par exemple, si je dis simplement « Dieu est amour » et que je garde que ça, « Dieu est amour », alors c'est vrai que l'amour est un attribut de Dieu, on ne peut pas l'enlever aussi de la nature de Dieu, mais Dieu n'est pas que amour, il est aussi Dieu saint. Etc., etc. Alors j'aime bien cette histoire que vous connaissez tous, c'est un vrai régal lorsqu'on la lit à nouveau, c'est tellement humoristique, je trouve que c'est humoristique. C'est l'arche de l'Alliance qui est amenée chez les Philistins dans le temple du dieu Dagon. Voilà, l'arche de l'Alliance, lieu de la présence de la sainteté divine par excellence. Alors les Philistins croient faire quelque chose de fort et de bien en mettant l'arche de l'Alliance dans le temple du dieu Dagon. Dagon était représenté par une statue. Et le lendemain, en ouvrant le temple, qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent? La statue du dieu Dagon qui est par terre. Bon, quelqu'un a dû la faire trébucher, on la remet sur place, on la remet sur son piédestal. Et puis, le lendemain, ils reviennent. Qu'est-ce qui se passe? La statue de Dagon est encore tombée, la tête est coupée, les mains sont coupées. Devant la présence de Dieu, toutes les idoles tombent. Relisez ça, on lit ça dans 1 Samuel. C'est très très bon. Et donc lorsque je dis, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, lorsque je parle, lorsque je demande que ton nom soit sanctifié, attendez-vous, si vous prenez réellement compte de ce sens-là, que vos idoles tombent devant la sainteté de son nom. Les idoles que l'on peut se créer, même contre notre gré. Hein? Ça, c'était le second aspect de cette demande. Le troisième aspect, je vais faire plaisir à France. Nombre 6, 23, c'est la bénédiction d'Aaron. Le Seigneur dit, parle à Moïse, et il dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. De la même façon, acte 15, verset 14, il nous est dit que Dieu a jeté ses regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. L'Église porte le nom de Dieu. De la même façon qu'Israël porte le nom de Dieu, l'Église porte le nom de Dieu. Et c'est un nom saint. Être chrétien, c'est porter le nom de Dieu, porter le nom de Christ. C'est comme si Dieu, dans sa sainteté, nous a fait participer à sa sainteté. OK ? C'est un enseignement que j'ai reçu de Jean Hay. J'étais beaucoup plus jeune. Et il nous faisait l'étude de base et disait, lorsque Moïse arrive devant le buisson ardent, il nous est dit, Dieu lui dit, ôte les souliers ôte les souliers de tes pieds, oui c'est de tes pieds, les souliers, ôte de tes pieds les souliers, parce que le lieu où tu es est saint, non pas parce que le lieu était saint par lui-même, mais parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et alors souvent on pense de manière négative cela. Mais ce que Dieu invite à faire pour Moïse, c'est ôte qu'il n'y ait aucun obstacle entre toi et ma sainteté. Profite de ma sainteté, en quelque part. Profite. Et Jésus va dire la même chose dans Jean 17. Je me sanctifie moi-même pour eux. Hein ? Il fait de nous un peuple de sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par le Seigneur. Nous portons son nom, n'est-ce pas ? Et alors, frères et sœurs, parce que nous sommes un peuple qui portons son nom, nous devons honorer le Seigneur. Nous devons faire en sorte que son nom ne soit pas... Quel est le contraire de sanctifier dans la Bible ? Profané. Que son nom ne soit pas profané. Un des arguments que les gens qui ne connaissent pas Dieu donnent à l'Église, mais je ne vois pas Dieu chez vous, vous blasphémez Dieu, si Dieu est vraiment avec vous, pourquoi vous faites cela ? Une espèce d'anticléricalisme qui s'exprime. Bon, ça c'est l'histoire de la France, je ne reviens pas dessus. Mais nous avons aussi un devoir de témoigner de cette sainteté de Dieu en tant que corps de Christ, en tant que membre personnel, je dirais, du corps de Christ. Un Pierre 2, verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Vous voyez l'espérance de, quand même de Pierre. Il y a des gens qui sont contre vous, mais un jour Dieu va les visiter, et Dieu va les visiter suite à ce qu'il voit vos bonnes œuvres. Hein ? Voilà. En fait, nous pouvons voiler parfois, et c'est... Seigneur, le moins souvent possible, Seigneur, nous pouvons voiler sa sainteté aux yeux des hommes et nous pouvons même déshonorer son nom aux yeux des hommes. Le moins souvent, Seigneur, possible. Lorsque Moïse, je ne vais pas raconter toute l'histoire, ça me prendrait longtemps, mais Moïse, à un moment donné, le peuple d'Israël crie pour avoir de l'eau et Dieu lui dit, ben, tu parleras au rocher. Et il y aura de l'eau qui sortira du rocher. Je ne sais pas ce qui se passe sur Moïse. Moïse ne parle pas au rocher. Il prend son bâton et frappe deux fois sur le rocher. Et l'eau sort. Mais Dieu va lui dire, tu ne m'as pas sanctifié, c'est marqué comme ça, tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Et c'est une des raisons pour lesquelles Moïse n'est pas rentré dans le pays promis avec Aaron. Tu ne m'as pas sanctifié. Je t'ai dit de faire de cette manière-là, tu l'as fait d'une autre manière-là. Tu n'as pas montré ce que je suis réellement. Peut-être que Dieu voulait montrer son visage, je dirais, d'amour. Et là, il y a eu un visage de colère qui a été présenté. Vous voyez ? Alors, mes amis, je ne vais pas rester sur cette note. Et je sens que je vais bientôt vous endormir. Pour conclure, j'avais commencé mon message en disant que notre connaissance du Seigneur grandissait en proportion de notre relation avec lui. Mes amis, prier en disant à notre Père que ton nom soit sanctifié, c'est un immense privilège parce qu'il nous a donné son nom, car nous connaissons son nom et nous le connaîtrons encore davantage au fur et à mesure de notre relation. Rappelons-nous ce que Jésus a dit, Père Saint, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore. Je leur ferai connaître encore. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore au bout de notre connaissance de notre Seigneur. Hein ? Ok ? Il y a encore des choses à découvrir de Dieu. Même si vous avez 45 ans de conversion ou 50 ans de conversion, il y a encore des choses à découvrir de qui est Dieu et à l'expérimenter. Et ça, c'est une joie pour moi. Souvent, on rencontre des chrétiens blasés. Je sais tout. Je connais tout. Tu cites un début de verset, il va te mettre à la suite, etc. Mais dans la vie chrétienne, il n'y a pas un jour où je dis, Seigneur, je sais tout de Dieu. Je connais tout de Dieu. Il y a quelque chose encore à découvrir. Alors, frères et sœurs, revisitez cette prière encore chez vous cette semaine. Méditez-la, faites-la vôtre. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Vous portez ce nom, nous portons ce nom. Amen. On va prier, je vous demande de vous lever. Et puis, je demanderai aussi à l'équipe de louanges de venir. Seigneur Jésus, quelle grâce, Seigneur, quelle grâce que cette relation avec toi. Seigneur, quelle grâce, Seigneur, que nous pouvons t'appeler notre Père. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Tu es tellement extraordinaire, tellement fort, tellement puissant. Seigneur, je suis personnellement émerveillé par qui tu es, Seigneur. Et ton Église te dit ce matin, révèle-toi comme tu es. Seigneur, nous n'avons pas peur de toi. Et même si lorsque tu nous dévoiles ta grandeur, parfois nous sommes tellement remplis de cette grandeur que nous tombons à tes pieds, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas avoir peur de cela. Manifeste ta sainteté, Seigneur. Manifeste ta gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, l'Église te dit, Seigneur, sanctifie ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Soyez bénis.